Chers frères et sœurs, il y eut un jour un immense feu de forêt, un incendie gigantesque. Tous les animaux étaient terrifiés, atterrés, et ils observaient impuissants le désastre. Seul un petit colibri s'activait. Et après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Reconnaissez, frères et sœurs, que cette histoire est assez émouvante, car elle met en scène la petitesse face à l'immensité. Cette histoire est émouvante parce qu'elle met en scène le caractère tragique de la vie, nous, devant les montagnes que nous devons escalader. Elle peut faire penser au jeune berger David qui va faire face au géant philistin Goliath. Goliath, ce géant qu'il arrivera à terrasser, en dépit du fait que tout le monde le donnait perdant d'avance. Cette histoire du petit colibri face à l'incendie géant peut faire penser à notre condition humaine face aux défis gigantesques des temps présents. Et d'ailleurs, cette histoire est souvent reprise dans les questions liées au réchauffement climatique. Cette histoire est belle, vraiment belle, mais je dois vous dire qu'elle est vraiment fausse. Vraiment fausse. Ou plus exactement, l'esprit scientifique qui doit nous habiter nous rend attentifs au fait que la fin de l'histoire, la morale que l'on pourrait tirer de cette histoire ne correspond pas, mais alors pas du tout, à ce que les promoteurs de cette histoire imaginent. En effet, jeter quelques gouttes d'eau sur des braises, par exemple, et vous verrez que cela provoque des flammes. Eh oui, jeter des gouttes d'eau sur un feu est la meilleure façon d'attiser un feu, de le rendre encore plus dévorant. Et cela s'explique facilement. La chaleur dégagée par le foyer provoque le passage de la goutte d'eau à l'état de vapeur, un gaz formé d'oxygène et d'hydrogène, ce qui va s'enflammer. L'histoire du colibri est en fait l'histoire d'un pyromane qui va attiser le feu au lieu de l'éteindre. Cette histoire est édifiante, je trouve, car elle nous révèle que ce que nous tenons parfois pour une belle action, la petite goutte d'eau jetée sur un incendie, c'est quand même mignon, aboutit à l'effet inverse du but recherché. Et cette histoire nous enseigne une chose, c'est que le saupoudrage ne règle pas tous les problèmes, loin de là. Le saupoudrage a plutôt tendance à attiser les problèmes qu'à les régler. Et c'est ce que nous révèle ce psaume 66, qui chante la louange de Dieu. Observons que louer l'Éternel, c'est louer le Dieu vivant. Or, ce que nous constatons, c'est que dans le récit de l'Histoire sainte, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Dieu vivant n'y va pas de main morte. Ce qui caractérise l'action du Dieu d'Israël, c'est que lorsqu'Israël est victorieux, justement parce qu'il se réfère à Dieu, c'est que la grâce de l'Éternel est caractérisée par l'inverse du saupoudrage. La grâce de l'Éternel est caractérisée par la surabondance. Et lorsqu'Israël s'en sort, c'est quand Israël se réfère à Dieu. Et je crois que ce n'est pas tout à fait anodin que les réformateurs aient intégré dans les principes de la réforme protestante « à Dieu seul la gloire » parmi les principes directeurs. Ni les réformateurs, ni les rédacteurs bibliques n'imaginait que Dieu était une personne dotée de pouvoirs supérieurs à la moyenne, qui était en mesure de régler les problèmes à la place des êtres humains. En rapportant la gloire à Dieu seul, comme le fait notre psalmiste, les théologiens disent que la victoire, disent que la solution des problèmes n'est pas remportée par celui qui agit comme le colibri, mais par celui qui se réfère à ce que Dieu désigne dans les textes bibliques. Et je parlerai volontiers de surabondance. Dans les textes bibliques, Dieu ne désigne pas un colibri, ni une éthique qui se référerait à l'attitude du colibri. Dieu n'est pas un pyromane, il ne souffle pas sur les braises. Dieu ne désigne pas une manière d'agir de main morte, ni une manière d'y aller mollo. On ne peut pas dire non plus que Dieu y aille par le dos de la cuillère et pour ajouter un anthropomorphisme, vous pourrez faire la liste de toutes les choses que Dieu ne fait pas. Ce qui caractérise l'action divine, c'est la surabondance. Dieu ouvre la mer des joncs pour y faire passer le peuple, nous rappelle le psalmiste. Dieu coupe le fleuve Jourdain pour faire entrer le peuple hébreu à pied sec dans la terre promise. Ses œuvres sont redoutables, dit le psalmiste. Et dans ces différents épisodes du livre de l'Exode ou du livre de Josué, pour ce qui est du passage de la mer des joncs ou le passage du Jourdain, on parle de nifléotes, de signes extraordinaires. Ils ne sont pas extraordinaires au sens où ils défieraient les lois de la physique. Ils sont extraordinaires au sens où ils défient les lois de l'esprit humain qui considère qu'il faut être dans une attitude minimaliste. Pensons à la traversée du Jourdain. Si vous lisez le chapitre 2 du livre de Josué, vous constaterez que des espions sont envoyés par Josué pour aller se renseigner sur l'état des forces à Jéricho. Pour cela, les explorateurs traversent le Jourdain. Il est donc possible de traverser le Jourdain. Mais lorsque le peuple entre en terre promise, le fleuve est carrément coupé et tout le monde peut passer à pied sec. C'est en quelque sorte un miracle inutile, au sens où on n'avait pas besoin de couper le Jourdain pour passer le Jourdain. Mais le fleuve est coupé de telle manière que les Hébreux passent à sec. Cela indique que l'action de Dieu ne va pas dans le sens du moins-disant, de la décroissance, mais dans le sens de la surabondance. Tout le monde aurait pu franchir tant bien que mal le Jourdain, puisqu'il avait été franchi au chapitre précédent. Or, l'action de Dieu ne s'exprime pas dans le tant bien que mal, mais dans le tant et plus, qui permet de créer les conditions les plus favorables qui soient à la vie. L'action de Dieu est massive, elle est imposante, elle est sans hésitation. Il n'y a pas question de saupoudrage, ça risquerait de provoquer l'effet inverse de ce qui est attendu ici. Ici, il s'agit de faire passer les Hébreux, et les faire passer au compte-gouttes aurait été une manière de laisser aux habitants de Jéricho l'opportunité d'être alertés et de tuer l'un après l'autre ceux qui auraient franchi le fleuve. La surabondance plutôt que le colibrisme. Il me semble que c'est cela la perspective exprimée clairement au verset 12. Après les difficultés qui sont évoquées, le psalmiste déclare, je cite, « Tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. » Et je dirais même la surabondance, si nous suivions le vocabulaire grec rapporté à la grâce selon Paul. La surabondance de la grâce. La grâce surabonde là où le péché abonde. Là où notre finitude, là où nos insuffisances nous donnent le sentiment d'être arrivés au bout de l'histoire, la grâce surabonde. Je vous le dis de façon un peu martiale, parce qu'il faut que vous compreniez que c'est massif. N'imaginons pas que cela est dû au fait qu'à cette époque, on ne manquait de rien, et que par conséquent, on pouvait puiser gentiment dans toutes les ressources naturelles. Ça, c'est une idée fausse, l'idée qu'à cette époque, on ne manquait de rien. N'importe qui s'intéressant à l'époque du bronze récent sait qu'il y a eu des bouleversements géopolitiques dus à des problèmes climatiques, au réchauffement climatique notamment. Et si toutes les histoires de la Bible se passent dans les hautes terres, c'est justement parce que les populations avaient quitté la Shephela, la plaine, pour monter dans les hautes terres. Et intéressez-vous à l'année 1173 avant notre ère pour constater que ce n'est pas propre au peuple hébreu et que c'est une sorte de phénomène que l'on trouve dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Cette perspective divine intervient donc parce que nous sommes souvent dans une situation où nous pensons que le mieux est de baisser la voilure, que le mieux est d'être dans un régime de décroissance, de courber les chines en attendant que ça passe. Mais croyons-nous vraiment que les choses passent sans que nous intervenions pour que ça change? La perspective divine de la surabondance se constate dans l'étendue de l'action de Dieu qui, justement, n'est pas simplement une action massive, mais qui va s'exprimer dans deux dimensions décisives. À la fois, nous découvrons qu'elle n'est pas limitée à quelques personnes, et nous découvrons aussi qu'elle n'est pas non plus limitée dans le temps. Ce sont deux autres caractéristiques utiles pour comprendre aussi ce qu'est le sens d'une vie chrétienne, je pense. Commençons par parler des personnes. Vous n'y avez peut-être pas été très attentif, mais le psalmiste mêle volontiers toutes les personnes dans sa louange. Il y a aussi bien l'individu qui s'exprime en jeu, au verset 13 à 15, au verset 17 à 20, que la communauté qui s'exprime en nous, au verset 6 à 7, au verset 9 à 12. Cela crée déjà une tension entre l'individu et le collectif, et c'est les deux qui sont pris ensemble. Il y a aussi le « vous », des versets 1 à 5, au verset 8 et au verset 16. Ce qui crée une tension supplémentaire entre l'intérieur et l'extérieur. Et cela correspond bien à l'interpellation qui retentit par deux fois, à savoir que la louange est faite par toute la terre. Avec Dieu, on n'oppose pas les uns contre les autres, on rassemble les uns avec les autres, sans exception. C'est, vous me passerez l'expression, la grâce pour tous. La perspective de Dieu, c'est la perspective universelle. Autrement, c'est du sectarisme. Contre le colibri qui dit « j'ai fait ma part », l'homme de Dieu fait alliance avec Dieu pour établir des partenariats avec les autres. Ces autres qui sont là, qu'il n'a pas forcément choisis, qu'il n'apprécie peut-être pas, mais qui sont là, offerts à tous ses sens, et qui sont aussi sous le regard de Dieu, c'est-à-dire à portée de grâce. L'homme de Dieu, le psalmiste, reconnaît chez l'autre celui avec lequel il est donc possible de coopérer pour porter son action à hauteur de Dieu et être efficace. C'est-à-dire de se référer à Dieu pour penser notre manière d'être. Et en l'occurrence, cela donne le goût de la surabondance. Je dirais même une surabondance farouche, tant les textes bibliques nous invitent à métamorphoser la moindre parcelle de notre histoire en une épopée qui n'a rien à envier aux plus valeureux de nos héros. Une surabondance farouche parce qu'elle est tenace et opiniâtre. Et il me semble que les textes bibliques font le récit de tant d'épopées pour que nous prenions bien conscience que notre vocation n'est pas de vivoter, mais de faire de notre vie une véritable épopée. Et cela ne peut pas se faire seul, en vérité. Avec le psalmiste, nous découvrons que la grâce est pour les uns et pour les autres. Elle est universelle, elle n'est pas fragmentée, elle n'est pas dépecée, ou alors ce n'est plus la grâce. La grâce surabonde par-delà les individus, les groupes, les partis, les tendances. Et, comme je le disais, notre psalmiste ne s'en tient pas simplement à la question des personnes. La surabondance de l'action de Dieu vaut aussi pour le temps. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. L'action de Dieu surabonde en transcendant le passé et le présent. L'action de Dieu, célébrée par le psalmiste, surabonde par-delà l'hier et l'aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour notre protestantisme, qui a tendance quand même à considérer qu'il y a eu un âge d'or qui n'est pas celui de la Bible, qui est celui de notre bonne vieille guerre des Camisards, ou peut-être de notre 19e siècle, quand la France était protestante. Peu de choses près. Montpellier était protestante à cette époque-là. Le maire était protestant, tous les présidents d'université étaient protestants, tous les chefs des services de médecine étaient protestants. Bon. Ça ne fait pas un fonds de commerce. Notre fonds de commerce, c'est la grâce. Et la grâce transcende le temps. Et donc, il ne suffit pas de trouver dans notre histoire des faits merveilleux pour dire « tout a été accompli, maintenant nous pouvons profiter d'une rente de situation ». Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'histoire sainte. Au verset 6, l'acte de délivrance de l'Égypte et l'ouverture du Jourdain sur la terre promise disent l'action salvatrice de Dieu autrefois. Il n'y a pas de déni du passé, il n'y a pas d'absence de mémoire. C'est le passé d'Israël, il est rappelé, et cela est juste et bon. Au verset 10 à 12, Israël connaît une épreuve à traverser, à surmonter. C'est le présent d'Israël. C'est nous aujourd'hui. Et voilà la surabondance du temps qui s'exprime dans la fin du verset 12. Tu nous en as fait sortir. Tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. Et cela propulse le psalmiste dans le temple au verset 13. C'est le futur, l'inaccompli. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. Il y a une perspective. Il y a une espérance. Nous ne sommes pas condamnés à célébrer le passé, à le commémorer, à nous enfermer dans le musée de l'histoire sainte. Il s'agit d'avoir en ligne de mire cette espérance que la foi en Dieu nourrit. C'est là que nous constatons que la surabondance de l'action de Dieu, du passé jusque dans l'avenir, conduit à un avenir qui va être célébré dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Le psalmiste fait mémoire du passé pour retrouver l'espérance qui lui permettra de se tourner vers l'avenir avec foi dans la bienveillance de Dieu. Je reprends volontiers la formule du professeur Olivier Abel qui consiste à dire que retraverser le passé, c'est retrouver des promesses qui ont peut-être été oubliées et les réactiver. Notre foi, c'est dire oui à des promesses qui ont peut-être été enfouies, endormies et les ressusciter. Et le psalmiste, voyez-vous, nous apprend qu'il faut tout tenir à la foi, les uns et les autres, le passé et le présent. Et c'est cela qui autorise l'avenir, qui le rend possible. Bien souvent, l'avenir semble barré parce que nous mettons des « ou », fromage ou dessert, foi ou raison, égalité ou liberté, là où nous devrions mettre des « et ». Le thème biblique de l'Alliance dit bien ce que le colibri est incapable d'exprimer. Ce n'est pas le saupoudrage qui sauve les situations. Ce qui sauve les situations problématiques, c'est la surabondance que permettent les coopérations, ce que le vocabulaire théologique nomme l'action du Saint-Esprit. Le saupoudrage, c'est l'ennemi de la foi, parce que c'est un calcul de boutiquier qui ne fait pas honneur à la grâce surabondante. Le saupoudrage a plutôt tendance à aggraver les situations, comme le fait le colibrisme. Le psalmiste nous révèle que les situations s'améliorent par des mesures massives qui correspondent à ce que Dieu désigne. Et puisque tout à l'heure, le président de l'Entraide protestante nous parlera de ses actions et de ce que nous sommes appelés à faire, pensons à ce qu'est notre action diaconale, notre entraide protestante, si nous ne faisons que du saupoudrage. Nous maintenons les gens dans l'incurie. Nous les maintenons dans la misère. Songez à quelqu'un que vous connaissez bien, Ghislaine, qui se tient à la porte de notre temple chaque dimanche. Pour se donner bonne conscience, on lui donne quelques pièces. Et c'est gentil, mais c'est du colibrisme. Ce qui fait qu'année après année, elle est encore là. Et elle passe ses dimanches matins à la porte du temple, alors qu'elle devrait être avec nous dans le temple. Mais bien sûr qu'elle ne peut pas. Il faut qu'elle soit aussi avant à la sortie de l'église Saint-Denis pour récupérer quelques autres piécettes, quelques gouttes d'eau qui, au lieu d'éteindre l'incendie, ne font que l'attiser. C'est un exemple concret qui dit bien ce qu'est le caractère perverse, parfois, de nos actions d'entraide. Nous faisons des mesures de saupoudrage, je pense à ce qu'était autrefois le revenu minimum d'insertion. Par définition, un revenu minimum d'insertion ne peut pas sortir les gens de l'embarras. Ça les maintient en dessous de ce qu'est notre niveau de vie à nous, qui allons bien. Enfin, je dis « nous » collectivement, ça ne veut pas dire que nous sommes tous ici dans une situation facile. Il faudrait le revenu maximum d'insertion. Il faudrait que nous pensions à la grâce surabondante. On ne peut pas se dire simplement « on a nourri quelqu'un et le ventre est plein aujourd'hui ». Il faut aussi penser à l'éducation, il faut penser à la capacité de gérer un budget, il faut penser aussi à l'hygiène, il faut aussi penser aux règles de savoir-vivre, il faut aussi penser à la façon de se couvrir, de lutter contre le froid, de tenir peut-être un foyer quand on est enfin autonome dans un appartement. Tout cela est indispensable. Il faut penser des réponses massives, surabondantes. Et il ne suffit pas que les gens aient un reste à vivre qui leur permettent d'avoir zéro à la fin du mois. Il faudrait qu'ils puissent ensuite eux-mêmes investir dans des entreprises humaines qui rendent le monde infiniment plus vivable qu'il ne l'est actuellement. J'ai bon ? Ça va ? Je m'adresse au président de l'entraide protestante. Hein. Il nous dira si ça va. C'était pour préparer une offrande massive pour tout à l'heure. Ça marche. Bref, je résume. La grâce, c'est tout sauf des mesurettes. C'est tout sauf des coups de pouce. C'est tout sauf les minima, qu'ils soient sociaux, éducatifs, spirituels ou autres. Vous voyez, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais avec André Gounel et d'autres, on pourrait très bien vous donner de la bouillie théologique. Les trucs qu'on trouve partout. Gentil mais faux, pas très sophistiqué. Ben, on estime que ça, c'est de la mesurette, c'est du saupoudrage. Un petit peu de vocabulaire théologique, un petit peu de religion populaire, et tout le monde est content, on a l'impression qu'on a fait le travail. Non. L'exigence, c'est de pouvoir rendre disponible les résultats de la recherche théologique telle qu'elle se fait dans les académies, et la rendre disponible pour chacun, massivement. Pas de colibrisme en vous donnant une petite goutte de ceci. Massif. Ce dont nous avons besoin pour transcender nos situations problématiques, c'est la grâce surabondante. Amen.